Bonjour tout le monde, on est avec une proche d'une personne atteinte d'un trouble de santé mentale. Donc, elle va nous partager là, son expérience et son vécu là, au quotidien. Bonjour.
Allô?
Veux-tu me parler un peu de toi, de ton expérience en tant que proche?
Oui, certainement. Moi, je suis une maman et une conjointe d'une personne qui est atteinte d'un trouble de cyclothymie. Cyclothymie, c'est dans le spectre de la bipolarité. Donc, ça apporte en fait la personne à avoir des up and down, mm-hmm. en bon québécois.
Oui.
La cyclothymie, c'est comme un peu en dessous au niveau du niveau, je dirais, de manie. Ce qui fait que la personne va avoir des grands éclats de joie sur une période X. Et souvent, elle va avoir la même intensité, mais en dépression qui va venir par la suite. Fait que c'est un peu pour ça qu'on parle de cycle, cyclothymie. Et ce qui fait dans le fond que ça amène cette personne-là dans cet état de soit de joie ou de down, c'est souvent super déstabilisant pour l'entourage. Puis en fait, je vais parler pour moi. Moi, c'est ce qui fait en fait que oui, c'est ça. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que à partir du moment où on a su que c'était une problématique de cyclothymie, je suis allée voir dans les livres. Là, je me suis mis à lire là, d'une façon un peu intense. Puis, fallait que je comprenne tout. Fallait que je sois en mesure de pouvoir aider autour de moi aussi mon entourage. Parce que moi, ce que ça me faisait, dans le fond, c'est que quand il montait en hypomanie, donc, dans des périodes de grande joie intense, ça me déstabilisait complètement.
Oui.
Au point que, même avec mes enfants, j'avais de la difficulté à tenir de façon constante mon énergie pour être en mesure de les entertainer, de les stimuler, de leur apporter toute cette joie-là qu'une maman est censée faire.
Oui.
Et c'est là où est-ce que je m'apportais énormément de culpabilité.
Mm-hmm.
Fait que je ne comprenais pas d'où ça venait. Au départ, je savais qu'il y avait une problématique, mais c'était tellement comme flou. Ça m'amenait dans un genre de brouillard.
C'est pas un trouble de santé mentale qui est super connu non plus, là. Ça, c'est en lien avec la bipolarité, mais c'est pas nécessairement la variante de la bipolarité là, qu'on a en tête là, quand on pense à la bipolarité. Là.
Non, exactement, c'est ça. Puis quand je me suis mise à lire ça, à lire là-dessus, je comprenais que... c'était un peu comme une tornade qui nous accrochait par un bras, par les cheveux, par un peu partout. Où est-ce que tu n'arrives plus à avoir les deux pieds sur terre, puis tu tentes de reprendre tes bases, puis tout part, en fait. On dirait que dans ta maison, tout devient une tornade partout, ce qui fait que ça déstabilise vraiment. Tu sais, pas juste la personne qui est déstabilisée, qui est atteinte, mais en fait, tout son entourage devient déstabilisé. Et c'est là où est-ce que moi, justement, je me mettais énormément de...
Pression.
De pression, oui, le mot est bon, de culpabilité, parce que je voulais donc être en mesure de pouvoir stabiliser tout ce beau monde-là autour de moi, m'incluant moi et incluant lui.
Oui, quand ton quotidien n'est pas stable à cause d'une personne qui est proche de toi, tous les comportements, les actions qu'il y a autour, ça risque que c'est déstabilisant. Fait que c'est difficile de garder le navire droit sur sa petite ligne quand il y a des grosses marées puis une grosse tempête qui bouge. Hein.
Exact. Exactement. C'est ça. Ça devient... Exactement. C'est comme si le navire prenait des vagues d'un côté, de l'autre, puis il n'y a plus de stabilité. Mm-hmm. Comme plus de racines, là.
Oui.
Plus rien qui se tient. Oui, puis c'est là où est-ce que après avoir lu tous ces livres-là, je me suis dit, OK, faut que je trouve une façon, tu sais, de nous aider, de nous stabiliser tout le monde, parce que c'est bien beau de tout savoir ces informations-là sur la personne, mais tant et aussi longtemps que la personne elle-même fera pas ses propres démarches, il faut que tout ce qui se passe autour de lui continue quand même de...
Fonctionner.
De fonctionner, exact. Oui. Fait que c'est là où j'ai découvert, moi, entre autres, le cercle polaire. Je vais être honnête, quand je pense dans la plus grande hypomanie qu'il a connue, c'est là où est-ce que moi, j'ai vraiment tout perdu mes repères.
Mm-hmm.
Et c'est là où est-ce que j'étais sur le net, Je cherchais auprès de certains de mes amis qui étaient les plus proches de moi, qui le savaient. Je ne trouvais rien. Je me sentais complètement perdue dans le néant, dans le noir.
Ouais.
Et j'ai tellement cherché longtemps, là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, justement, je suis tombée sur le cercle polaire.
Mm-hmm.
Puis c'est là où...
cette étoile dans le ciel qui guidait.
C'était la lumière au bout du tunnel. Fait que là, je me suis dit, OK, moi, je prends tout de suite rendez-vous. Je veux justement être... je veux être encerclée, justement. Mm-hmm. Je veux être soutenue. Je veux me sentir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi.
Mm-hmm.
Parce qu'on prend beaucoup, tu sais, toute notre énergie va sur l'autre personne pour essayer de la stabiliser, de l'aider, de la comprendre. Mais au fond, on perd toutes nos énergies, tu sais.
Oui.
Nous, en tant qu'accompagnants ou de proches, on veut tellement aider l'autre qu'on s'épuise.
Mm-hmm.
Au lieu de... puis on n'apprend pas ça, tu sais, ni dans les livres, ni quand on est jeune, de conserver son énergie, tu sais, puis de savoir la nourrir au lieu de la donner à tout le monde autour.
Bien, de se protéger, puis de mettre ses limites, là. Au final, c'est de mettre ses limites puis prendre soin de soi, là.
C'est exactement ça. C'est là où quelqu'un, moi, m'a dit, je vais m'en souvenir toute ma vie, un intervenant, c'est un thérapeute qui m'avait dit, « Elle est où, toi, ta limite? » Et cette fois-là, ça a été comme si une tonne de briques me tombait sur la tête. C'était la réponse.
Ouais.
Et tout a commencé suite à ça. J'ai commencé à mettre justement mes limites. Oui, ça déstabilisait. Tu sais, quand tu es habitué de toujours dire oui, justement, tu penses que ça va tellement aider. Mais après, tu sais, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis avec la personne avec qui je suis. C'est sûr que c'était difficile à prendre, là. Il était plus habitué de se faire dire non, ça, c'est ma limite.
C'est déstabilisant, là. C'est plus le quotidien qu'il y avait depuis tant d'années, là.
Puis je me suis même rendu compte, là, que dans ce fameux quotidien-là dont tu parles, sans même me rendre compte, en ne mettant pas ma limite, je nourrissais un peu cet état-là. Parce que c'est un peu comme si j'étais toujours en train de donner... un amour.
Mais tu valides un comportement en tant que tel.
C'est ça.
C'est comme si tu récompenses des comportements qui viennent, que la personne peut travailler pour défaire un peu ces comportements-là qui sont plus néfastes, on va dire.
Exactement. Exactement ça. Fait que j'ai commencé à poser mes limites. J'ai tenté de le montrer à mes enfants aussi, comment poser leurs limites. Et c'est là où est-ce que je suis tombée suite à ça sur deux livres qui ont été, pour moi, révélateurs. C'est le livre « Il pleut à la maison ».
OK.
Et « La maison des intempéries ». « La maison des intempéries », c'est sur une personne qui est TPL. Ça n'a pas de lien exactement, là, parfaitement avec la cyclothymie, mais tu sais, il y a quand même des points qui se ressemblent au final.
Mais dans les changements au niveau des émotions,
c'est ça.
Des difficultés au niveau des relations interpersonnelles, tu sais, ça reste que, même si c'est pas le même trouble de santé mentale, il y a plusieurs troubles qui ont des mêmes symptômes puis des mêmes problématiques qui viennent avec, là.
Exact. Puis je trouvais que quand je lisais ce livre-là, c'était fait pour les enfants, quand je lisais ce livre-là, ce qu'il a donné comme information, c'était beaucoup comment les gens autour se sentent. Fait qu'au final, les gens se sentent pas mal toutes de la même façon, tu sais. Déstabilisés, t'as l'impression qu'il y a une tornade qui passe dans la maison.
De l'impuissance,
t'as l'impression que, tu sais, soit il pleut, il neige, à un moment que c'est pas censé, il y a une tempête, tu sais, puis... Tu l'as pas vu venir, t'es pas préparé.
Oui.
Fait que t'es un peu déstabilisé, souvent en hypervigilance. Tu regardes à droite, à gauche, comment ça va se passer, sans trop savoir comment ça va se passer. Mm-hmm. Puis c'est là où est-ce que quand je lisais ces livres-là, je me suis dit, OK, c'est le temps d'en parler à mes enfants.
Oui.
C'est exactement là où est-ce que les psychiatres et les psychologues qui ont écrit les livres expliquaient, ben ils savent très bien qu'il se passe quelque chose. Puis je pense que c'était ce qui pesait le plus lourd pour moi, de savoir que moi, je suis en train de me construire des petits outils, une petite boîte à outils pour moi, pour m'aider. Les aider eux par la bande sans qu'ils sachent pourquoi je dois aider.
Mm-hmm.
Mais ils savent très bien qu'il y a une lumière qui clignote en plein milieu du salon.
Parce que les enfants sont quand même très sensibles à justement les changements au niveau de l'énergie dans la maison, puis des dynamiques. Là.
Exact.
C'est comme des petits détecteurs de fumée. Là. Qu'ils savent c'est quoi qui se passe, même s'ils ne peuvent pas comprendre nécessairement directement. Là. Ben, ils peuvent comprendre, mais ils ne comprennent pas à ce moment-là si on ne leur explique pas.
C'est exactement ça. Tu viens de dire exactement les bons mots. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait tant et aussi longtemps que les mots n'étaient pas dits.
Mm-hmm.
Puis, je me souviens que j'ai pris les enfants, tu sais, un après l'autre, là, à des moments différents dans leur vie, où est-ce que je les sentais quand même relativement prêts, mais je leur ai tout expliqué. Ben, il y a une maladie. Quand on a la grippe, ben, même si on demande à la personne d'arrêter de tousser puis de se moucher, elle va quand même se moucher puis tousser. Tu sais, mm-hmm. Je veux dire, elle a la grippe. Donc, ça sert à rien de lui demander de se calmer ou de lui demander d'être moins entreprenant dans tous ses projets. Pour le moment, tant il y a aussi longtemps qu'il y a...
de la maladie.
Ben, c'est ça. Il tousse puis il se mouche. Fait que même si, tant que la maladie n'est pas passée, je veux dire, ça va être comme ça. Puis à partir du moment où tu comprends ça, puis que l'enfant comprend ça, tu as l'impression d'enlever 8 sacs à dos là, sur les épaules. Là. C'est comme, ah, il y a des mots qui ont été dits sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. Il y a des mots qui ont été dits sur mes sentiments, mes émotions en ce moment. Puis ça a libéré un peu tout le monde. Puis après ça, on a l'impression d'avoir enlevé un gros, gros brouillard, puis de pouvoir toucher la bonne affaire. C'est parce que moi, quand ça arrive, ça m'atteint sur une des facettes de mon quotidien. Mon enfant, lui, ben, ça va l'atteindre sur peut-être sa concentration à l'école, sur sa sociabilité ou peu importe. Là. Ce qui fait qu'on est en mesure de pouvoir cibler, tu sais, après ça, sur quel...
Sur quoi travailler, sur quel aspect. Puis, tu sais, ça, c'est de la transparence au final, là, avec les enfants. Là.
Exactement. Fait que, tu sais, ils le voient, là, maintenant, même monter quand ça monte, ils le voient quand ça descend. Puis, tu sais, pour parler très personnellement pour ma famille, mon conjoint, quand il monte en hypomanie ou en hypertimie ou en tout cas dans un état plus élevé, c'est un leader. Fait que c'est une personne, c'est un entrepreneur, c'est un gars qui est extrêmement compétent dans ce qu'il fait. Mm-hmm. Donc, toutes ces idées, on dirait qu'il emmagasine depuis, tu sais, des années à l'intérieur de lui, puis qu'il dit « ça, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça faire ça ». C'est comme si condensé. Pardon, en moins de 2 mois, il va tout le faire, ce que nous, un être humain normal, ferait en 2 ans. Fait que, tu sais, il réussit à entreprendre des super projets, des affaires incroyables, incroyables. Mais comme c'est pas dans l'équilibre, c'est là où est-ce que ça fait un clash avec une personne qui est pas dans cette énergie-là, tu sais. Fait que tu sais, c'est bien beau, mais...
quand il y a un petit down par la suite, c'est sûr que, tu sais, le train de vie puis le mode de vie qu'il a instauré avec le rail, ça peut pas se maintenir.
Ça se maintient pas. Ça fait pas de sens. Puis souvent, ben, c'est là où est-ce que lui va s'auto-critiquer.
Oui.
Il va trouver, « Hey, mais là, je suis donc ben pas, efficace, versus, je sais comment je peux être efficace.
Oui. »
Puis là, ben, veut pas, tu sais, ça floue la réalité parce que t'étais pas dans un équilibre. Puis nous, ben, en tant qu'humains, on n'arrive pas à le suivre non plus dans tout ça. Fait que, tu sais, c'est là où est-ce que moi, je parle de tornade, là. J'ai l'impression qu'on fait juste comme tourner en rond là-dedans. Mais suite à tout ça, ce que j'avais envie d'amener, tu sais, de plus important pour moi, c'est que à un moment donné, j'ai comme réussi à concentrer mon énergie à l'intérieur de moi, pour éviter justement, comme je disais tantôt, de l'évacuer partout ailleurs.
Mm-hmm.
C'est là où est-ce que, tu sais, moi, j'ai entré à l'intérieur de ma vie de la méditation de façon beaucoup plus consciente puis plus officielle. Je réalise que j'ai toujours médité depuis toujours dans ma vie. J'ai toujours eu une grande foi, tu sais. Puis, mais là, cette fois-là, je me souviens que je me suis assise puis je me suis dit, là, je prends le temps vraiment de me déposer, tu sais, puis pour moi. Peu importe ce qui se passe à côté de moi, peu importe comment ça va vite autour de moi, peu importe qu'il y ait des jugements autour de moi. Parce que, tu sais, quand tu comprends qu'est-ce qui vient de se passer, quand tu viens de comprendre comment ton conjoint, ben, les mots, la maladie qu'il y a, tu vois d'avance, avant même de l'avoir dit aux gens dans ton entourage, le jugement qu'il va y avoir, la honte qu'il peut y avoir, selon leur peur à eux, tu sais.
Fait que beaucoup d'auto-stigmatisation, au final.
Certainement. Même moi, tu sais, moi-même, je me disais, ben voyons, je peux pas croire que ce diagnostic-là est posé, tu sais.
Parce que ça, c'est comme n'importe quelle grosse maladie. Ah, oh, ça arrive aux autres, pas à moi.
Exact. Exact. Oui. Puis là, tu t'embarques dans la dualité, tu sais. T'es capable, toi, de voir que, ben oui, ça arrive pas à nous. Nous, on... Finalement, on l'a caché pendant toutes ces années. On a été dans quelque chose de fake toutes ces années, tu sais. Puis j'ai pas montré ma vulnérabilité, mon authenticité, parce qu'au final, tu sais, j'avais mal avant aussi, là. Donc, la réalité, c'est que, ben oui, quand ça monte en hop, ben oui, je suis dans toutes mes émotions, dans la peur, où est-ce que ça va aller, dans la honte, dans la tristesse, dans la culpabilité pour mes enfants. Je les ai toutes les émotions, tu sais, dans le fond. Puis tu sais, à un moment donné, tu réalises que, ben je les ai cachées en plus pendant toutes ces années-là dans ma vie. J'ai même pas été dans la vérité pour moi-même.
Juste des refoulés à l'intérieur. Oui. Pas les exprimer alors qu'ils sont valides. Au final, là, c'est vraiment valide de la part d'un proche de s'inquiéter, d'être triste, d'être en colère, d'être dépassé par la situation. Là.
Exactement. Puis tu sais, juste dans un couple régulier, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de problèmes de santé mentale, on a toutes des difficultés, tu sais, on se challenge l'un et l'autre. Fait que je pense que la difficulté est un peu plus grande dans ce temps-là parce que tu tombes dans un aspect où est-ce que le cerveau, il travaille d'une façon différente. On dirait qu'on n'arrive pas à dire « ben oui, c'est normal, les hommes sont tous comme ça » ou « ah oui, c'est normal, les femmes sont toutes comme ça », tu sais. Ou c'est clair que ça fait des difficultés entre hommes et femmes, mais là, on est comme dans une petite coche différente. On dirait qu'on a un chemin différent de tout le monde.
Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler non plus, là, autant pour le proche que pour la personne qui est atteinte, là.
Exactement. Fait que ça fait des situations où est-ce que des fois tu te dis bon, OK, j'agirais comme ça normalement, mais là je peux pas agir comme ça, tu sais, ça sera pas nécessairement compris. Ouais, fait que c'est là où est-ce que j'ai trouvé, tu sais, 2-3 petits trucs naturels qui me faisaient énormément de bien, tu sais, entre autres venir ici, j'ai compris que parler c'était probablement une des clés les plus importantes. À partir du moment où tu le gardes à l'intérieur de toi, puis que tu n'en parles pas, ben tu es dans le masque, puis tu es dans le faux. Tant et aussi longtemps que tu n'es pas dans ta authenticité, il n'y a rien qui peut avancer.
Puis tu fais juste accumuler au final là, toutes les difficultés, tout ce poids-là, ça s'accumule, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Fait que c'est en ventilant, puis justement en parlant de la situation que tranquillement tu peux te libérer de ce poids-là.
Exactement. Exactement. Puis même avec lui, tu sais, à un moment donné, je réalisais qu'il y avait des moments où est-ce que, ben, ça sert à rien de parler de ça. En ce moment. C'est pas le bon moment, tu sais, puis j'aurais donc envie d'être comprise, justement, à ce moment-là. Puis c'est là où est-ce que plus tard, j'ai compris, tu sais, OK, c'est peut-être avec, justement, plus mes enfants qu'on peut en parler, parce que eux, justement, aussi, ils vivent des situations qui vont leur amener des émotions peut-être différentes des miennes. Puis on réussit, tu sais, dans ce temps-là, à évacuer quelque chose qui aurait été comme emmagasiné en dedans de nous. Puis bien souvent, c'est le corps qui se met à avoir des douleurs. Ou justement, on parlait de la concentration chez les enfants. Des fois, ils arrivent à l'école. Puis tu sais, comme c'est pas évacué, c'est toujours à l'intérieur de leur tête, tu sais. Puis dans ce fameux livre-là dont je parlais tantôt, « Il pleut à la maison », la psychiatre parle... de bipolarité. C'est tellement intéressant. Puis elle parle d'un roi, justement, qui vit dans un château où est-ce que la température est jamais égale. Ça tombe dans une sécheresse extrême ou, tu sais, dans des... Dans le fond, on comprend très bien qu'elle parle de ses émotions. Puis moi, quand je lisais ce passage-là à mes enfants, c'est là où mes enfants, ils me regardaient avec des yeux grands puis ils me disaient « Hé, mais on dirait papa! » Puis je me disais, waouh, tu sais, c'est amené d'une façon parfaite pour que les enfants comprennent. C'est là où est-ce que moi j'ai réussi à me libérer d'une certaine culpabilité, tu sais. Ça tient pas juste de moi.
C'est pas juste toi qui as supporté tout ça, là.
Exact.
Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, c'est correct d'en parler aux enfants? Quand est-ce que tu t'es dit, ah, ils sont prêts à l'entendre? Qu'est-ce qui a fait que tu leur as parlé
je
un
leur,
peu?
En fait, je leur ai parlé, peu importe l'âge qu'ils avaient, là. J'ai pris le temps, plus ils vieillissaient, de leur donner des détails beaucoup plus précis en vieillissant, avec peu importe l'âge qu'ils avaient, avec l'histoire qui était un peu plus enfantine, peu importe. Là. Donc, ça leur a permis de vraiment comprendre d'une façon claire, évidente. Puis, c'est qu'à un moment donné, je réalisais qu'il n'y avait personne qui était bien là-dedans, que les enfants savaient très bien l'émotion que j'avais, me demandaient comment tu vas, puis je me sentais obligée de dire « ça va bien », mais ils savaient très bien que ça n'allait pas bien. Donc, j'étais en train de leur montrer que dans la vie, on continue.
Même si ça va pas bien.
Même si ça va pas bien.
Puis que les émotions ne sont pas valides non plus.
Exact. Qu'on était en train de cacher ce qu'il y a de plus important. En fait, les émotions, c'est ça qui te guide où est-ce que tu dois t'en aller, tu sais. Puis, souvent, malheureusement, on les tasse de côté. Puis, bien souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les cacher par une addiction de n'importe quelle sorte. Tu sais, ça peut être du sucre, de la télé, cellulaire, peu importe c'est quoi, un réseau social. Puis, je voulais justement être en mesure de pouvoir leur montrer que la vérité, c'est qu'à partir du moment où tu le sors, ton émotion, puis que tu es validée et entendue, eh bien, il y a plein d'autres façons de pouvoir t'extérioriser. Puis, de trouver tes forces plutôt que de les cacher dans une addiction, tu sais.
Les utiliser de façon constructive,
exactement.
Par l'art, mettons, par le sport, oui. Peu importe. Là.
Même la colère, là, c'est une énergie extrêmement puissante. Tu as le droit, on la valide, c'est vrai, tu sais, tu y as droit. Maintenant, on va la travailler pour que tu sois capable de la maîtriser plutôt que de l'évacuer n'importe comment, tu sais. Ou de la refouler, puis que ça devienne...
une petite bombe à retardement, là.
Exact.
Ouais.
Exactement. Fait que c'est ça. Je te dirais que pour répondre à ta question, c'est quand j'ai vu que c'était... Il n'y avait rien qui était vrai, là. Que personne ne me croyait sans me dire « Je te crois pas que tu vas pas bien », tu sais. Quand on rentrait dans quelque chose qui était faux.
Une façade un peu...
Ouais.
Au sein de la... Même de la famille, en fait.
De la famille, puis même de la société, tu sais. On rentrait dans un genre de mensonge, puis que j'étais en train de valider ce mensonge-là. Ça, pour moi, ça faisait plus de sens.
Oui.
Je pense que c'était ce qui vient...
Tu voulais élever, puis...
Non, exact.
Que tu voulais inculquer à tes enfants.
Exactement. Ce qui est le plus important, je pense, c'est la vérité de qui tu es, de ce que tu ressens. Puis c'est ça que je voulais leur montrer.
Oui.
Oui. Fait que, tu sais, je leur ai montré à méditer. Je leur ai montré à tenter d'exprimer leurs émotions. Je dirais pas que c'est parfait, là. Vraiment pas. Mais tu sais, je travaille...
C'est pas facile de toute façon. Exprimer ses émotions, c'est le travail d'une vie, au final. Puis pour des enfants, mais on y apprend aussi avec le temps.
Exact. Oui. Exactement. Ouais, c'est mon défi. C'est probablement un de mes plus gros défis de vie. Puis je voyais aussi qu'il y avait beaucoup de difficultés d'apprentissage à l'école avec mes enfants. Puis ça, je trouvais ça difficile, tu sais. Puis je savais très bien que leur cerveau était préoccupé à autre chose, tu sais.
Ouais.
Ils n'étaient pas là, prêts à apprendre normalement. Fait que... Puis c'était un peu la même chose pour moi. Moi aussi, là, mon cerveau était partout, sauf où est-ce que je devais être. Mon cerveau voulait que tout le monde survive, incluant moi.
Mais oui.
Donc, si tout le monde vit, ça va, tu sais. Mais au final, c'était pas une vérité. Là.
Non.
Absolue. Là, non.
Mais surtout, la survie, c'est pas vivre. Au final, là, tu sais, c'est bien beau de survivre, là, de tout emmagasiner, mais tu peux pas profiter de la vie, puis tu peux pas avoir autant de plaisir quand tu refoules tous tes sentiments, puis que t'as un gros poids sur tes épaules. Là.
Exact. Puis tu sais, c'est drôle qu'on parle de ça, parce que souvent, je fais la métaphore quand que j'explique un peu comment que ça avance là, trop vite, puis que ça bouge trop vite. Puis tu sais, je me sens un peu comme si, tu sais, t'es dans l'eau, puis tu tiens tout le monde à bout de bras pour justement qu'ils soient capables de respirer.
Oui.
Puis tu sais, toi, t'es en dessous de l'eau, là, tu respires pas, puis à un moment donné, tu fais un « OK, je vais t'en faire un bout, puis je vais les tenir encore à bout de bras au-dessus de l'eau pour que tout le monde respire. » Tu sais, quand t'es dans des grosses vagues, ou on parlait de navire tantôt.
Mais oui.
Puis, tu sais, ça fonctionne pas. Ils savent très bien là, que maman est en dessous puis qu'elle respire pas. Oui. Tu sais, je veux dire, ça marche pas. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, on est une famille, il faut que tout le monde se tienne de la même façon puis que notre énergie soit la même, tu sais, pour puis justement s'aider.
Ça permet, au long terme, ça fonctionne pas de tenir tout le monde
impossible.
Au-dessus de l'eau.
Tu droppes, tu tombes, tu t'épuises. Fait que...
au court terme, c'est possible. C'est un moyen de dernier recours, mais ça reste...
Exact.
Pas quelque chose qui peut durer à long terme.
Puis c'est pas pour rien qu'en avion, ils disent de prendre le masque à gaz en premier, ouais. Tu sais, le masque à oxygène, tu sais, nourris-toi toi-même, rends-toi bien, puis après ça, tu vas être en mesure de pouvoir rayonner autour de toi puis aider les autres, tu sais.
Oui.
Fait que c'est ça. Fait que j'ai mis à ce moment-là en avant un peu tous les trucs que je recevais. D'ici, des thérapeutes que j'avais ici et là aussi autour de moi, ouais, pour aider tout le monde, ouais. Puis peu importe l'âge, selon moi, pour les enfants, c'est important de leur dire, là, parce qu'ils savent très bien.
Il se passe quelque chose.
Ben oui.
Ils savent qu'il se passe quelque chose. Ils savent pas nécessairement quoi, mais ça les affecte quand même.
Exact. Exactement.
Mais merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir de te parler puis de discuter avec toi. Fait que... si ceux qui nous écoutent, là, ben, je vous remercie de nous avoir écoutés, justement. Puis merci d'avoir écouté ce beau témoignage. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, d'appeler les services d'urgence. Donc, soit le 811 option 2, une ligne d'écoute, le Centre des crises de Québec, Centre de prévention du suicide, ou le 911, là, si c'est vraiment une urgence très présente. Puis n'oubliez pas que le Cercle Polaire est là aussi pour vous soutenir si jamais vous avez un besoin de rencontres individuelles, de groupes, familiales, peu importe. Là, on est là pour vous écouter aussi. On est disponible toute la semaine de 8h30 à 4h30. Merci beaucoup.
Merci.